Vous écoutez
RMC.
Et nous parlons dopage depuis 10h ce matin avec Olivier Rabin, le directeur de la médecine de l'AMA, et le professeur Jean-Claude Alvarez. Un rendez-vous à vous donner tout de même à 11h30. Liège, Bastogne-Liège, la dernière classique de Pogacar cette saison et en ce printemps. On en parle aujourd'hui. Quand vous voyez ses performances, est-ce que vous êtes inquiet pour le suspense sur le Tour de France? Mais GG, puis 11h45, on s'en fout pas. Toute l'actualité de ce week-end avec notamment du judo, de la moto et le tournoi des six nations féminins des Français en grande forme, nous allons en parler. Mais le dernier volet tout de suite de notre dossier dopage, la lutte est-elle vraiment efficace? Olivier Rabin, directeur sciences et médecine de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, et Jean-Claude Alvarez, directeur du service toxicologie de l'hôpital APHP Raymond Poincaré de Garges. Je le rappelle, l'homme qui innocente certains athlètes, notamment Iga Świątek, Simona Halep ou encore Isaura Tibus.
Est-ce que dans vos carrières respectives, à tous les deux, vous êtes de grands professeurs en toxicologie, vous avez déjà rencontré des sportifs qui sont venus vous dire « Moi, je me suis dopé ». Et est-ce que ça arrive que des athlètes disent qu'ils ont fauté, qu'ils ont triché? Vous, professeur Alvarez, non. Vous en avez déjà rencontré?
Non, moi, non.
Ça n'existe pas, c'est une
denrée rare. Moi, ils viennent me voir quand ils veulent prouver qu'ils ne sont pas dopés. Donc non, je ne les vois pas, ceux-là. Par contre, mes analyses, parfois, prouvent qu'ils sont dopés. Quand je fais de l'analyse capillaire et que j'ai des concentrations élevées dans les cheveux, pour moi, il n'y a pas de doute. L'autre jour, j'ai eu 75 picots d'ostarine dans les cheveux. Il n'y a pas de doute. Pour moi, c'est du dopage. Voilà. Donc, je m'arrête là. Il faut bien comprendre.
Mais vous renvoyez pas le dossier vers l'AMA quand même. Vous êtes pas délateur.
Non, je renvoie le dossier à l'avocat. Il en fait ce qu'il veut. Je suis pas sûr qu'il utilise mes résultats pour vous dire la vérité. Voilà. Mais ça, c'est son problème. Donc voilà. Mais bien entendu que j'ai des cas de positifs dopés. Et là, je m'arrête là. Je suis pas contre le dopage. Et à la limite, ces gens-là, il faut les attraper.
La lutte anti-dopage est-elle vraiment efficace? C'est justement notre question, la question qu'on a tous envie de se poser. Jérôme Pinault.
Oui, moi je vais m'adresser à Monsieur Rabin une nouvelle fois et lui poser la question, parce que on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui on parle de contamination de toutes petites doses très infimes de certains produits, mais de microdoses, inefficace. De certains produits présents. En revanche, on sait qu'il y a un vrai souci avec un sujet, c'est l'autotransfusion, la transfusion sanguine, qui est le dopage du riche, le dopage organisé, le dopage du grand. Je viens d'un sport où on le sait, cette méthode a été utilisée.
On est très suspicieux.
dans beaucoup de domaines.
La tennis woman. Fais-toi petite en ce moment, on parle mal de vous. Quand même. Et donc aujourd'hui, le doute, la suspicion est permanente sur les exploits de Pogacar, Vingegaard, Van Der Poel, etc., etc. On sait aussi que parfois, sur certaines vieilles analyses, on peut retrouver des toutes petites infime dose de clambutérol par exemple, mais il y a une grosse suspicion de dopage sanguin. Où en est-on, monsieur Rabin, dans la recherche pour enfin pouvoir prouver et suspendre un athlète qui aurait fait appel à ces méthodes qui sont des méthodes, on peut le dire, de voyous? Il faut que l'on puisse savoir, nous les passionnés, où en est-on sur ce genre de méthodes et quelles sont où en sont les recherches sur les méthodes contre la transfusion sanguine.
Permettez-moi de reprendre la question à la base. Peut-être vous expliquer aussi une chose qui me paraît relativement importante, et je pense que ça valide dans le sens qui devrait vous rassurer également. Si la charge de la preuve et la certitude que l'on peut avoir lorsqu'on parle de dopage. Souvent, et c'est pas le professeur Alvarez qui me dira le contraire, la science au quotidien fonctionne avec, faisons simple, une marge d'erreur de 5% à peu près, voire de 1% dans les cas les plus poussés. C'est-à-dire qu'on se laisse 5% ou dans les meilleurs des cas 1% de marge d'erreur. Ce qui, en antidopage, ne s'applique pas, puisque nous, on travaille à une marge d'erreur de 0,01%. Ça veut dire qu'on veut un degré de certitude de 1 sur 10 000 versus 1 sur 20 de se tromper. Donc, on est immédiatement dans un système qui nous met sur les épaules, qui met sur mes épaules et celles de mes collaborateurs et de tous les gens qui travaillent dans l'antidopage, une charge, si vous voulez, scientifique qui est extrême, puisqu'on doit être capable, et c'est ce que nous demande souvent le système antidopage et les juristes qui travaillent dans le système antidopage, d'avoir un niveau de certitude extrêmement élevé. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des méthodes, pour venir à votre question sur les autotransfusions sanguines, est un véritable défi pour nous. Pourquoi? Parce que d'abord, vous prenez le sang d'un individu que vous stockez de façon temporaire ou plus longue avec différentes méthodes, que vous réinjectez. C'est-à-dire qu'il faut qu'on détermine, qu'on distingue entre les cellules d'un individu et ses propres cellules. Donc en soi, c'est un défi. On a trouvé des méthodes, mais qui n'ont pas atteint le degré de certitude qui était nécessaire pour les appliquer en antidopage ou qui parfois nous donnaient des fenêtres de détection trop courtes. Ce qu'on a mis en place dans un premier temps, et on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le passeport biologique de l'athlète, qui est une méthode indirecte qui peut révéler des retraits sanguins ou des administrations sanguines avec des volumes sanguins qui sont encore relativement importants. On ne parle pas de microtransfusion, on parle plutôt de transfusion d'unités de sang, c'est-à-dire 450 ml de sang ou un peu moins. Maintenant, on a investi énormément, et on n'est pas les seuls, il y a d'autres organisations aussi qui l'ont fait, dans les méthodes de détection. Et aujourd'hui, on a des méthodes extrêmement poussées qui vont chercher la cellule sanguine qui pourrait nous révéler qu'il y a eu transfusion sanguine. Donc on est sur des méthodes extrêmement pointues et ce que l'on cherche à voir aujourd'hui, c'est si ces méthodes vont nous donner le degré de certitude suffisant pour pouvoir les amener dans le contexte antidopage.
Professeur Rabin, le sport le plus montré du doigt, on l'a bien compris, reste le cyclisme en matière de dopage. Pas une victoire de Pogacar ou l'un des fantastiques sans qu'il soit montré du doigt. Relevé de Watts à l'appui, tous ceux qui veulent montrer qu'il est coupable nous montrent ça. Est-ce que les puissances considérables produites par les coureurs vous inquiètent ou vous pensez que cela est normal qu'un Pogacar éclate la concurrence dans la montée du mur de Huy comme il l'a fait cette semaine? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce genre de choses et est-ce que vous avez des méthodes justement pour essayer de nous rassurer de ce côté-là?
Alors, la science progresse au quotidien et on intègre très régulièrement des nouvelles méthodes. On a même parfois des méthodes de détection de certaines substances qui ne sont pas encore disponibles pour des athlètes ou commercialement disponibles. Donc ça aussi, c'est le travail que l'on fait notamment avec l'industrie pharmaceutique. Ensuite, je pense qu'il faut voir différentes choses. La première, c'est... Oui, il y a des performances qui peuvent parfois poser question. Maintenant, il faut voir ce qu'il y a derrière ces performances. Aussi, la préparation des athlètes, l'entraînement, l'alimentation. On parle beaucoup de l'utilisation des corps cétoniques, notamment dans le cyclisme, vous le savez très bien. Il y a tout un ensemble aujourd'hui. Et puis, il y a des substances qui sur lesquelles on travaille beaucoup. Ce sont notamment ce qu'on appelle les agonistes des récepteurs GLP-1, style sémaglutide, l'Ozempic que l'on connaît, et ses petits frères et ses petites sœurs, sur lesquels on travaille beaucoup sur les effets. On a travaillé aussi beaucoup sur le tramadol. Souvenez-vous, le tramadol a été une substance. On a réussi à démontrer au travers...
Enfin, Monsieur Rabin, on ne gagne pas un Tour de France avec le tramadol. Enfin,
non. Mais ça peut aider quand même, semble-t-il. On a démontré que le tramadol, je vous réfère à la littérature scientifique, peut augmenter la performance.
Non, mais bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on a perdu beaucoup de temps sur les corps cétoniques et le tramadol et que ça pouvait être, pour certains, un leurre pour continuer à faire du petit bricolage à côté? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Je ne pense pas qu'on ait perdu de temps. Je pense que toutes ces questions se posent. La question m'a été posée à la main sur les corps cétoniques et j'ai toujours une position très claire. Ce ne sont pas des substances qui sont considérées interdites par l'Agence mondiale antidopage. Elles ne sont pas sur la liste. Le tramadol, un certain nombre de questions se sont posées sur le tramadol aussi. On a mené des recherches pour montrer que le tramadol pouvait avoir un effet d'augmentation de la performance et est donc interdit à ce titre. Et on travaille sur nombre de substances.
Le monoxyde de carbone aussi, qui a été récemment montré du doigt.
Monoxyde de carbone, effectivement, qui est interdit dans le cyclisme et pour lequel l'AMA a réfléchi et va probablement sortir sur la nouvelle liste un élément spécifique lié au monoxyde de carbone dans son utilisation.
C'est difficile à doser.
Quelques questions avec Olivier Rabin devoir le laisser. Juste Olivier Rabin avec nous, directeur sciences et médecine de l'AMA. Moi, juste pour poursuivre sur Tadej Pogacar, est-ce que quand on est l'AMA, et là c'est une question de néophyte total, est-ce que quand on voit les performances de Pogacar ou d'un autre cycliste,
est-ce qu'on envoie des inspecteurs régulièrement?
Est-ce qu'il y a des loupiottes, vous voyez, qui s'allume, quoi, qui dit attention, là on a quelque chose, un peu comme en 2002, vous nous expliquez le cas Armstrong, vous êtes arrivé et puis vous aviez déjà un dossier.
Alors, écoutez, différents éléments. D'abord, oui, les performances exceptionnelles attirent toujours l'attention. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a dopage derrière des performances exceptionnelles. On en a dans différents sports et on ne lève pas forcément les sourcils à chaque fois qu'il y a des performances un peu exceptionnelles. Bien évidemment, ces éléments sont pris en compte à la fois par les gens qui sont responsables des tests antidopage dans le cyclisme, nommément l'ITA, qui a une unité... et des gens qui sont spécialisés dans le cyclisme et qui ciblent les athlètes, donc les cyclistes à différents niveaux. Il y a aussi un autre élément qu'il faut garder à l'esprit. Je sais que c'est pas forcément le plus agréable, mais il a été parfois extrêmement utile. Et je prendrai comme référence les Jeux Olympiques de Londres, où on a la possibilité de garder des échantillons pendant 10 ans et de faire des analyses rétrospectives. Et une fois qu'on a des méthodes en place, et je mets ce commentaire en parallèle de ce que je disais précédemment, où on a des méthodes aujourd'hui qui sont assez avancées, mais pas encore suffisamment validés pour les appliquer, mais dans les années qui viennent, on peut très bien utiliser ces méthodes sur des échantillons qui sont stockés. Le cyclisme,
c'est vrai,
notamment des sports qui stockent les échantillons.
Mais les coureurs qui se battent contre Tadej Pogacar ou un autre, ça va leur faire une belle jambe dans 10 ans de savoir que ils auraient pu être premiers.
Je te confirme.
Un dernier mot, professeur, concernant le dopage génétique. Là aussi, on se demande si c'est du domaine du fantasme ou est-ce que vraiment des professeurs foldingues sont en train de travailler là-dessus. Est-ce que vous avez eu vent de ce genre de choses et est-ce que demain on aura des mutants qui bien exerceront dans le sport. On parle notamment de ces jeux, vous savez, les Unsaid Games que veut promouvoir la famille Trump, où on laisserait faire n'importe quoi à n'importe quel athlète, il n'y aurait aucun contrôle. Donc votre avis à la fois sur le dopage génétique et sur ces jeux un peu particuliers qui risquent d'arriver
bientôt. Exactement, la position de la masse sur ces jeux des dopés, comme on les appelle.
Ben, la réponse était dans votre question, c'est-à-dire est-ce qu'on veut voir des monstres demain concourir à des... sur des jeux quels qu'ils soient. Moi, j'ai l'impression qu'on revient au jeu du cirque, c'est-à-dire que tout est permis, des jeux du cirque romain, tout est permis pour le divertissement. Or, c'est pas ma philosophie du sport, non plus. Pour revenir au dopage génétique, oui, ça fait 20 ans maintenant qu'on a identifié ce risque. Alors, j'aimerais qu'on se limite au professeur Folding, mais malheureusement, la réalité de ce monde est un peu différente. Vous avez des gens qui se prétendent, je veux dire, experts dans le domaine et qui, dans leur garage, et j'en ai vu dans leur garage ou dans leur cuisine, vous concoctent avec des adénovirus et des séquences génétiques et les injectent un peu à n'importe qui, pas seulement des animaux, ils le font sur des animaux, mais aussi sur des humains. Donc aujourd'hui, le dopage génétique est probablement une menace plus réelle qu'elle ne l'a jamais été. Et on a identifié des produits qui peuvent être inquiétants. On a développé des méthodes qui aujourd'hui sont en place, en partie dans les laboratoires antidopage, et continuent d'être mises en place. Et je pars tout à l'heure pour Londres pour discuter justement de certaines de ces nouvelles méthodes d'analyse génétique que l'on pourrait impliquer et mettre en œuvre dans l'antidopage. Bon, oui. Donc oui, la science avance et le dopage génétique est une menace réelle. J'ai tendance à penser que les bonnes vieilles méthodes d'utiliser des médicaments ou des injections restent encore de mise, mais le dopage génétique est une réalité, en tout cas en devenir.
Si je peux te donner mon avis, je pense qu'il faut vraiment que l'AMA travaille là-dessus. Aujourd'hui, on fait de la thérapie génique à l'hôpital, donc on sait modifier un gène, et on sait très bien qu'en modifiant certains gènes, on va améliorer les performances. Et c'est votre gène, hein, donc vous modifiez vos gènes. Donc, bien entendu, je pense qu'il faut vraiment... C'est là où l'AMA doit travailler scientifiquement et passer beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour essayer d'être avant moi, je suis persuadé que c'est déjà en train de... Il y en a, comme vous dites, dans leur garage, qui sont en train de le faire. Hein. Peut-être sur la souris, mais peut-être pas que sur la souris.
Absolument. Mais juste pour répondre de façon complète à votre question, sur les Enhanced Games, l'AMA condamne fermement ce type de pratique, non seulement parce que, et je reviens, on sait déjà ce que pourraient des Enhanced Games. On l'a vu lorsque des programmes comme les programmes en ex-Allemagne de l'Est dopaient de façon quasiment systématique un certain nombre d'athlètes au Turu
d'Abel.
On voit ce que ça donne et on voit ce que ça a donné. Moi, je suis désolé, mais quand on essaye de nous vendre ces Enhanced Games en disant « Non, non, mais vous inquiétez pas, on va contrôler la santé des athlètes, expliquez-moi comment on peut contrôler la santé d'athlètes qui se dopent avec tout un ensemble de substances, y compris des stéroïdes anabolisants, dont on connaît les effets que des années, voire quelques décennies plus tard. C'est absolument impossible, c'est un leurre. » Donc la position de l'AMA a toujours été très ferme, on condamne absolument ce type d'approche. C'est un retour en arrière, c'est un risque pour la santé des athlètes, ce sera un concours de scientifiques et de pharmacologues ou de dopeurs génétiques, ni plus ni moins.
C'est le chômage technique pour la main.
La négation.
Eh bien, c'est une trêve.
Ça, peu importe.
Vous seriez sur la paille, professeur Alvarez.
Je fais du judiciaire et on a des décès avec des stéroïdes anabolisants. Hein. C'est
en tout cas,
c'était très clair et vous avez raison de condamner fermement, en tout cas, de le dire sur RMC ce matin dans les grandes gueules du sport et de nous avoir consacré comme ça un peu plus d'une heure. Merci beaucoup, Olivier Rabin, directeur sciences et médecine de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, d'être venu vous exprimer comme ça dans les grandes gueules du sport et de nous avoir consacré du temps. À très bientôt sur RMC.
Il faut le faire plus souvent, professeur. Vous voyez, là, vous vous exprimez devant tout le monde et je suis sûr que les gens vont comprendre un peu mieux ce qu'est la lutte antidopage.
On espère.
Avec plaisir, n'hésitez pas à m'inviter.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Olivier Rabin. On va poursuivre la discussion avec le professeur Jean-Claude Alvarez, directeur du service toxicologie de l'hôpital APHP Raymond Poincaré de Garches. On rappelle évidemment que vous avez réussi à innocenter notamment Hugues Azuantec, même si elle a été suspendue un mois par l'AMA. Cette question qui tourne depuis plus d'une heure de cette discussion, est-ce qu'on traque les vrais tricheurs?
Pas forcément. La preuve, c'est que moi, je pense qu'aujourd'hui, le dopage s'est concentré sur tout ce qui tourne autour de l'oxygénation. Le PO, les transfusions, pour moi, les vrais dopés sont là-dessus. Ce qui se...
Mais on a quand même fait des progrès même... là-dessus, non? Le PO aujourd'hui est détectable. Mais les transfusions sanguines, ça a l'air plus compliqué, hein, le professeur avant me disait.
C'est détectable, c'est pas si détectable que ça.
D'accord, les microdoses, on n'arrive pas à les détecter.
Ouais, déjà, c'est difficile, les microdoses. Ouais. Dans les urines, ça marche pas très très bien. Dans le sang, ça marche bien, le PO, mais dans les urines, ça marche pas très bien. Donc, c'est pas si détectable que ça, malgré tout.
Moi, j'avais une question pour vous, monsieur Alvarez, et je vais mettre un peu les pieds dans le plat.
Il faut.
Est-ce que, selon vous, un coureur ou un athlète qui va se préparer en altitude, qui garde son sang de côté et qu'il se le réinjecte sans produit extérieur, est-ce que c'est du dopage, oui ou non?
Ah bah, s'il se fait un prélèvement de sang et qu'il se le réinjecte, oui, c'est du dopage. Par contre, s'il va en altitude, moi, je suis en train de défendre des sportifs.
Et les chambres hypoxiques et tout ça.
Absolument. Oui. S'il va en altitude, je veux dire, avant, tous les sportifs partaient faire leur stage à Font-Romeu, hein, et ça choquait personne.
Colette Besson, la première, qui a été champion olympique en 68.
Exactement. Non, mais là, je mets pas un point sur le stage en altitude. C'est-à-dire que, aujourd'hui, il en va.
Est-ce qu'ils vont là-bas?
Aussi,
oui.
Est-ce qu'ils vont là-bas pour ça? Et est-ce que c'est vraiment, on se réinjecte son propre sang? Pour le commun des mortels, c'est pas si évident que ça de comprendre qu'on puisse punir un garçon qui s'enlève son sang et qui se le réinjecte. C'est très compliqué, hein.
Pour moi, ça, c'est de dopage, hein. C'est de la méthode.
Ah bah, pour moi aussi, je suis
c'est de la méthode de dopage. Donc, à partir du moment où vous faites ça, vous êtes dopé. Par contre, si vous montez en altitude ou en chambre hypoxique pour favoriser de manière endogène la sécrétion de votre PO, il faut bien comprendre que quand vous êtes en altitude, vous êtes en hypoxie. Vous n'avez pas assez d'oxygène. Et donc, l'organisme va réagir en sécrétant de l'EPO endogène pour pouvoir pallier ce manque d'oxygénation. C'est pas du dopage, ça. C'est, dans ce cas-là, la psychologie, c'est du dopage.
La frontière est quand même,
mais ça reste quand même naturel. C'est-à-dire qu'on sa propre sécrétion de PO.
Le détail est là, vous pouvez me le confirmer, vous qui en connaissez bien plus que moi sur ce sujet, c'est qu'en fait, sur les effets de l'entraînement d'altitude, il n'est pas aussi long qu'on pourrait l'espérer lorsqu'on fait, par exemple, une course de 3 semaines. C'est-à-dire que quand on rentre d'altitude, au bout de 3 semaines, les effets sont moins là. En revanche, celui qui prend, quand il est à son pic de sécrétion, son sang, et qui se le réinjecte tout au long de la course par microdose, là, l'effet dure très longtemps.
Ah oui, mais ça, c'est du dopage, je suis désolé.
Voilà. Vous avez vu comme les coureurs cyclistes sont au fait quand même des
la recherche médicale et des produits professeurs de l'arrêt, qui sont impressionnants.
Il n'y a pas que les coureurs cyclistes. Je te rappelle qu'il y a un numéro 1 mondial de tennis qui a été pris pour une microdose de je ne sais pas quoi.
C'est pas de la transfusion.
Le tennis, on est contaminé, le vélo, on est dopé. Bien sûr. Continuons.
Jean-Claude Alvarez, quand on a entendu Olivier Rabin, on a senti évidemment que vous n'étiez pas en phase et que vous n'étiez pas d'accord sur toutes les techniques. Pourquoi vous ne travaillez pas avec eux? Et ce ne serait pas plus simple, en fait, de déterminer qui est contaminé?
D'allier toutes les bonnes volontés.
Vous voyez,
mais si vous voulez, moi, j'ai aucun
problème. Après, votre but, c'est quand même d'innocenter les clients, les contaminés, et eux, c'est quand même de prouver qu'ils sont coupables ou non.
Moi, si vous voulez, moi, j'ai rien contre le lama. Ce qui me choque, c'est parfois l'acharnement qu'ils mettent à montrer qu'un contaminé est dopé. Ça, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Ouais. Quand on montre scientifiquement que c'est de la contamination, Simona Halep, hein, c'est vraiment un exemple.
Complètement.
18 mois de procédure, 18 mois pour finalement aboutir à une sanction de 9 mois, parce qu'ils ont reconnu que j'avais raison, c'était bien de la contamination. Ils n'ont toujours pas accepté la contamination, toujours pas.
Mais pour eux, la contamination, si on écoute bien, ça veut dire, oui, mais vous avez été négligent.
Oui, oui bah, non, oui. Mais attendez, Iga Swiatek, elle a acheté ses comprimés, sa mélatonine en pharmacie. C'est de la négligence, ça.
Oui, mais
dans ce cas-là, on arrête de tout.
En tout cas, le terme négligence rentre dans leurs critères de sanction.
Mais oui, pas de faute, pas de négligence. Mais c'est de l'interprétation.
Je rappelle que vous êtes allé racheter justement cette boîte de médicaments Gaziantep et que vous avez retrouvé le même taux qui lui avait été reproché.
Mais ça, je l'ai fait pour Mohamed Oufal, je l'ai fait pour Simona Halep. Simona Halep, 5 boîtes j'ai racheté. J'en ai ouvert 4, j'ai trouvé dans les 4, j'ai envoyé la 5e au laboratoire de l'AMA, ils n'ont pas trouvé. Mais j'y suis pour rien, moi, s'ils ne trouvent pas de
boîte. Vous allez vous ruiner en médicaments,
c'était
professeur.
Pas la bonne boîte, c'était pas
justement,
la bonne
justement,
boîte.
Justement, la question, on parlait tout à l'heure du dopage de mesure et surtout de la différence entre les sportifs riches et les sportifs smicards. Combien ça coûte aujourd'hui à un sportif qui vient vers vous et qui vous dit, voilà, professeur, j'ai été contaminé, je veux que vous le prouviez. Combien ça va lui coûter?
C'est difficile à répondre parce que ça va dépendre de ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va faire que du cheveu? Est-ce qu'on va faire des suppléments? Est-ce qu'on va faire IGA, par exemple? Elle m'a amené tout ce qu'elle prenait comme médicaments, comme ces crèmes de beauté.
C'est un travail de longue haleine.
Mais bien sûr, IGA, ça m'a pris des semaines pour arriver à trouver son comprimé contaminé, qui avait été testé dans un autre laboratoire, qui n'avait pas trouvé. Hein. Donc vous voyez, on va chercher de l'infiniment petit, parce que c'est de la contamination, ça ne fait rien. Ça rend juste les urines positives avec des concentrations très très faibles.
Du picogramme. J'ai l'impression que vous allez esquiver la question quand même.
Combien ça lui a coûté, IGA Swiatek?
Oh, je ne sais plus, je pourrais pas dire comme ça.
Vous savez.
Non, je ne sais plus.
Mais si
vous
voulez, mais un ordre d'idée.
Est-ce que c'est en dizaines ou en centaines?
Non, en dizaines. Non. C'est les avocats qui coûtent cher, plus que
la médecine.
Ouais, c'est les avocats qui coûtent beaucoup plus cher que nous. Et vous savez, moi, il y a des fois des sportifs, c'est là leur fédération qui paye la dalyse. Ça arrive.
Moi, j'ai un exemple
pour Isaïe Tibus, par exemple.
Par exemple, ça peut arriver. Absolument. C'est la fédération qui considère que voilà, il faut défendre le sportif qui. Parce qu'ils considèrent que si on est bien sur de la contamination, on n'est pas sur du dopage.
Ok, le mot de la fin, Jérôme.
Non, mais sur le côté argent, on a l'exemple, moi j'ai l'exemple concret de Franck Bonamour que je soutiens depuis son affaire. Franck a été obligé d'arrêter sa carrière parce que dans sa défense, il s'est endetté, il n'avait plus les moyens de payer les scientifiques pour prouver son innocence.
Et les avocats,
il a été... finalement la plus grosse des sanctions, c'est que sa carrière est terminée, alors que avec des plus de moyens, je suis et nous en sommes tous persuadés, et même un laboratoire mais qui était dépendant financièrement de l'AMA, a arrêté les recherches parce que Franck n'avait plus les moyens d'aller plus loin et il fallait en rajouter encore. Donc c'est bien un signe que lorsqu'on est puissant et riche, c'est quand même plus facile de se défendre.
Je vais vous dire, moi je suis universitaire, donc il m'arrive de faire vraiment des analyses qui me coûtent très cher. Mais je les facture pas au prix que
ça. On s'est rencontré trop tard, monsieur Alvarez.
Je vous aurais emmené
Franck Bonamour et je suis sûr que
vous parliez du cas de Nicolas Achillard, judoka français qui lui aussi a été cloué au pilori pour un cas de contamination.
Absolument. On est sur 14 picogrammes par millilitre dans ses urines. C'est le plus faible taux que j'ai jamais vu d'ostarine dans des urines. 14 picos. Il a rien dans ses poils. Il a rien dans ses cheveux. Il a rien dans ses ongles. C'est de la contamination. Je veux dire, il y a un moment donné, il faut arrêter de s'acharner contre les sportifs qui sont contaminés et pas dopés.
Voilà. Jean-Claude Alvarez, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission.
Passionnant.
Gueule du sport spécial dopage.
Merci beaucoup.